La grande machine humaine est faite pour marcher et elle doit marcher en produisant une surabondance d'esprit. Ça, c'est pourquoi elle est faite. L'évolution, avons-nous reconnu et admis, est une montée vers la conscience. C'est comme ça. Le fait que nous soyons là, c'est la preuve que l'évolution est une montée vers la conscience. Ou du moins, c'est même admis par les plus agnostiques, des humanitaires. C'est pas une affaire de la foi, ça. C'est comme ça, c'est un fait. Elle doit donc culminer en avant dans quelque conscience suprême. Ça va vers de la conscience. Alors, c'est que si on continue un peu les lignes, on va vers une conscience de plus en plus grande. C'est comme ça. Le monde représente un ensemble, non pas seulement fermé, mais centré. Et ça, c'est très beau. Pour Teilhard, c'est toujours, est-ce que les choses ont un centre ? Parce que quand il y a un centre, ça veut dire qu'il va y avoir du sens. Parce que quelque chose qui n'a pas de centre, eh bien, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Et donc, non seulement, il y a ça, mais c'est centré. Parce qu'il contient et engendre la conscience. Pour être capable d'engendrer la conscience, c'est qu'il y a en tant que scientifique, il ne veut pas dire quoi. Mais il dit c'est comme ça. Parce qu'il contient et engendre la conscience, l'espace-temps est nécessairement de nature convergente. Dans le sens converger. Alors vous comprenez ce que veut dire convergent. Convergent, c'est d'aller vers quelque chose qui soit de l'unité. Alors que l'autre terme, c'est de dire des divergents. Assez souvent, on va voir les hommes ont des attitudes divergentes. C'est-à-dire qu'ils s'écartent les uns des autres, qu'ils font des... Alors on va essayer de se séparer le plus possible et qui aboutit en général à la violence. Et il dit, mais c'est fou ce travail progressif de recherche vers quelque chose qui est convergent. Trouver le moyen de se parler et de s'entendre. Par conséquent, ces nappes démesurées suivis dans le sens convenable, doivent se reployer quelque part en avant, dans un point. Si on est un peu... on continue notre réflexion, puisqu'on était dans un système qui était multiple, qui était séparé complètement, qui se rassemble, on voit les choses qui convergent, puis si ça continue comme ça, tout va finir par converger vers un point. Appelons ce point... Oméga. Alors pourquoi appeler ce point, ce lieu de convergence oméga? Parce que on va prendre la dernière lettre de l'alphabet grec. On aurait pu l'appeler Z, en imaginant que les points initiaux étaient ces premiers atomes qu'il y avait d'hydrogène, etc. Les premières planètes qui se font, A, B, C, et puis... aujourd'hui, où est-on? Alors, on est peut-être à la lettre quoi? Sommes-nous au M? Est-ce qu'on serait au M? Est-ce qu'on serait... est-ce qu'on en est au T? Et il dit, si on voit les choses comme ça, évoluent comme ça, eh bien, ça va aller vers quelque chose de convergent et appelons ce point oméga, Z. Alors, oméga va d'autant bien, parce que pour nous aussi, c'est que nous sommes chrétiens. Et oméga, c'est aussi un terme que nous connaissons. Dans l'Apocalypse, il y a quelque chose, il y en a un qui s'appelle « Je suis l'alpha et l'oméga ». Voilà pourquoi Teilhard va garder ce terme d'oméga. Parce qu'il va faire référence au Christ. Pourquoi, et nous, déjà maintenant, on commence à voir ça. Pourquoi est-ce qu'il y a des hommes qui apparaissent? Mais parce que, pour nous, le Créateur crée le monde à son image et qu'il faut aboutir à cette vision de ce que va représenter l'humanité. appelons-le oméga, qui les fusionne et les consomme intégralement en soi. Quelque immense que soit la sphère du monde, elle n'existe, elle n'est saisissable finalement que dans la direction où se rejoignent ses rayons. Alors on pense à la sphère du monde, à tout ce qui se passe dans le monde, etc. Et dire, mais en fait tout ça, en réalité, va vers ce point qui est là. Et il n'existe que pour ça. Bien mieux, plus immense est cette sphère, plus riche aussi, plus profond et donc plus conscient s'annonce le point où se concentre le volume d'être qu'elle embrasse. Hein? Déjà, quand on imagine ce que nous sommes, quand on sent tous les savants qui existent, ces hommes intelligents, quand on voit la bonté des saints qui existent autour de nous, et on dit quand tout ça se rassemble et vit une unité, quelle conscience ça va faire. Puisque l'esprit, vu de notre côté, est essentiellement puissance de synthèse et d'organisation. Voilà. Là, on s'aperçoit aussi de ce que fait l'esprit. Alors là, quand il dit c'est l'esprit, il s'agit de la pensée humaine, de la réflexion. Et cette grande pensée qui fait que les choses avancent, quoi. Essentiellement, puissance de synthèse et d'organisation. Erreur donc de chercher du côté de l'impersonnel les prolongements de notre être et de la noosphère. L'universel futur ne saurait être que de l'hyperpersonnel dans le point oméga. Alors ça, c'est une réponse que Teilhard fait tout le temps, c'est par rapport à toutes les religions orientales qui disent nous allons vers quelque chose qui va être l'espèce de diffusion en tant que personne. C'est une espèce d'erreur que nous soyons personnifiés. On va se retrouver dans le tout, on va être dilué comme une goutte on va être dans l'océan. Et Teilhard dit c'est pas possible ça, puisque tout ce qu'a fait la création, c'est de faire des êtres personnifiés. Et donc, on ne peut pas se perdre de la personnification, on va être de plus en plus personnifié dans quelque chose d'extrêmement personnel. D'où cette conclusion inévitable que la concentration d'un univers conscient serait impensable si en même temps que tout le conscient, elle ne rassemblait en soi toutes les consciences, chacune de celles-ci demeurant consciente d'elle-même au terme de l'opération. Et même, ce qu'il faut bien comprendre, chacune devenant d'autant plus soi et d'autant plus distincte des autres qu'elle s'en rapproche davantage en oméga. Non seulement conservation, mais exaltation des éléments par convergence. Et c'est tout à fait étonnant de regarder le futur, l'avenir que voit Teilhard. L'avenir que voit Teilhard est un avenir où il y aura de plus en plus d'unité et de plus en plus de personnification. Parce qu'il dit, c'est comme ça que les choses se sont faites et c'est comme ça qu'elles vont continuer de se faire. Non seulement conservation, mais exaltation des éléments par convergence. Quoi de plus simple, en vérité, et quoi de plus conforme à ce que nous savons? En n'importe quel domaine, qu'il s'agisse des cellules d'un corps, ou des membres d'une société, ou des éléments d'une synthèse spirituelle, l'union différencie. S'unir a pour objectif de faire qu'on soit, on devienne plus soi-même. L'union différencie. Les parties se perfectionnent et s'achèvent dans tout ensemble organisé. C'est pour avoir négligé cette règle universelle que tant de panthéismes nous ont égarés dans le culte d'un grand tout, où les individus étaient censés se perdre comme une goutte d'eau, se dissoudre comme un grain de sel dans la mer. Hein, voilà pourquoi on dit, entre autres, que le christianisme est un personnalisme. Pour être pleinement nous-mêmes, c'est dans le sens d'une convergence avec tout le reste. C'est vers l'autre qu'il nous faut avancer. Le bout de nous-mêmes, le comble de notre originalité, ce n'est pas notre individualité, c'est notre personne. Là, alors là, on a quelque chose de un certain travail qui est un peu philosophique, hein, c'est la différence entre individuel et personne. L'individualisme, c'est très proche de l'égoïsme. C'est les centrations sur soi-même. Alors que la personne, on sait bien, la croissance de la personne ne peut pas se faire dans un égoïsme. Il y a une nécessité de tenir en compte les autres et de vivre avec et pour les autres. Pour être le bout de nous-mêmes, le comble de notre originalité, ce n'est pas notre individualité, c'est notre personne. Et celle-ci, de par la structure évolutive du monde, nous ne pouvons la trouver qu'en nous unissant. Pas d'esprit sans synthèse. Toujours la même loi. Trouver le moyen de l'unir. Alors nous, qui est en plus hein, ce que l'expérience que nous faisons de la communauté chrétienne, ne fait que confirmer tout ça. Parce que les lois chrétiennes ne peuvent aller que dans les lois de l'univers et d'aller de les mettre encore plus, d'une certaine manière. Puisqu'en effet, il s'agit d'opérer une synthèse des centres. C'est de centre à centre qu'elles doivent entrer en contact mutuel, et pas autrement. Et là, on a des orientations sur comment est-ce que le monde peut évoluer dans le bon sens. C'est que, progressivement, les personnes se rejoignent par le centre. Et nous le savons bien, dès que nous pouvons parler en profondeur avec quelqu'un, est-ce qu'il y a la guerre? C'est impossible. L'union va parce que on est dans des liens de centre à centre et qui fait le respect fondamental. Parmi les diverses formes d'interactivité psychique animant la noosphère, là vous savez ce que c'est, noosphère, c'est un mot que Teilhard a repris, sphère, ben voilà, hein, c'est la sphère comme on parle aujourd'hui de la sphère d'Internet, etc. Et noos, ça veut dire penser. Donc aujourd'hui, circule de la réflexion à toute vitesse en plus avec les communications actuelles. Animant la noosphère, ce sont donc les énergies de nature intercentrique. Voilà ce qui fait grandir, c'est des relations de centre à centre. Et voilà pourquoi le cœur de l'aventure chrétienne, va être des relations profondes, de centre à centre, qu'il nous faut reconnaître, capter et développer avant tout autre, si nous voulons concourir efficacement au progrès en nous de l'évolution. Si on veut concourir au progrès de l'évolution en nous, travaillons pour être un centre à peu près convenable, et donc savoir qui nous sommes. Travaillons dans des relations de centre à centre, donc où il y ait du partage, où il y ait des échanges. Et nous voici par le fait même ramenés au problème d'aimer. Et donc voilà comment, travaillant uniquement sur une lecture du passé, Teilhard arrive quelque chose de central dans l'existence qui est l'amour. Considéré dans sa pleine réalité biologique, l'amour, c'est-à-dire l'affinité de l'être pour l'être, hein, voilà, on va dire, qu'est-ce que ça va être l'amour, une définition de l'amour, une affinité de l'être pour l'être, n'est pas spécial à l'homme. Il représente une propriété générale de toute vie Et comme tel, il épouse, en variété et en degré, toutes les formes prises successivement par la matière organisée. Chez les mammifères, tout proche de nous, nous le reconnaissons facilement avec ses modalités diverses, passion sexuelle, instinct paternel ou maternel, solidarité sociale, etc. Seul l'amour, pour la bonne raison que seul il prend et joint les êtres par le fond d'eux-mêmes, est capable, c'est là un fait d'expérience quotidienne, d'achever les êtres. On ne peut aller au bout de soi-même, aller au bout de l'être, que parce qu'il y a de l'amour. C'est un fait d'expérience quotidienne. Seul l'amour est capable d'achever les êtres en tant qu'êtres en les réunissant. Et il n'est pas bon que l'homme soit seul. Avec l'amour de l'homme pour la femme, de la femme pour l'homme, pour ses enfants, pour ses amis, et jusqu'à un certain point pour son pays, nous nous imaginions souvent avoir épuisé les diverses formes naturelles d'aimer. Or, cette liste est précisément, or de cette liste est précisément absente la forme de passion la plus fondamentale, celle qui précipite l'un sur l'autre, sous la pression d'un univers qui se referme, les éléments dans le tout. L'affinité est par suite le sens cosmique. Elle nous dit qu'il va falloir s'ouvrir à un amour universel. Élargir notre cœur aux dimensions de l'univers. Un amour universel. Non seulement il est chose psychologiquement possible, mais encore il est la seule façon complète et finale dont nous puissions aimer. Alors quand on entend nous de ces paroles, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Ben voilà, comment aimer? Bien aimer au ciel à la largeur d'un univers, pouvoir aimer tout ce qui se passe, pouvoir avoir confiance dans ce qui est en train de se dérouler là, de cet incroyable qui se déroule. L'amour, disais-je, meurt au contact de l'impersonnel et de l'anonyme. Ça, c'est quand même des paroles. L'amour meurt au contact de l'impersonnel et de l'anonyme. Juste aussi infailliblement, il se dégrade avec l'écartement dans l'espace. Ah, vous prenez les gens et vous les écartez complètement, eh bien, il n'y a plus d'amour. Voilà pourquoi aussi, le fait que nous soyons rassemblés, là où deux ou trois sont rassemblés, je suis là. Mais parce que, pourquoi? Parce que c'est Dieu est l'amour. Et il ne peut pas y avoir d'amour si les gens restent loin les uns des autres. Pourquoi y a-t-il des communautés chrétiennes si ce n'est par cette réponse-là? Et beaucoup plus encore avec la différence dans le temps. Pour s'aimer, il est essentiel de coexister. Il faut exister à côté les uns des autres. Il faut au minimum se rassembler. Sinon, comment peut-on s'aimer? Voilà, et donc, on approche de la fin de notre tête, de nos passages de Théia. Lorsqu'on parle de la fin du monde, c'est dans la page 5, lorsqu'on parle de la fin du monde, c'est toujours l'idée de malheur qui nous vient immédiatement à l'esprit. Fin du monde égale malheur. Sans parler des malchances cosmiques qui nous guettent. Une malchance cosmique, alors ce serait, il y a une énorme météorite qui nous tombe dessus, par exemple. Ce serait une malchance cosmique. On soit visité par un trou noir, par exemple, et que, en l'espace d'un clin d'œil, on soit aspiré. Malchance cosmique. Que se passera-t-il dans la couche vivante de la Terre? Avec la complication et avec l'âge, les menaces intestines se multiplient. au sein de la biosphère et de la noosphère, les menaces intestines, invasion microbienne, contre-évolution organique, stérilité, guerre, révolution, enfin, journal télé.
Moi aussi.